Bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai pas salués aujourd'hui. Je vous invite à sortir une feuille de papier et un crayon, interrogation surprise. Là, je vois les regards un peu paniqués. Quel était le sujet de ma précédente prédication ? Je fais le malin, je ne me souviens pas de celle que j'ai entendue juste avant, à la dernière fois que j'ai participé au culte. Par contre, j'avais utilisé une image, peut-être que vous vous en souvenez. Non plus. C'est triste. Ça va peut-être revenir. Je vous avais parlé d'un moulin qui tombait en ruine. Vous vous rappelez ? Vous n'étiez pas là. Alors, merci Jean-Pierre d'avoir choisi le chant « Nous venons dans ta maison » parce que, figurez-vous que j'ai une excellente nouvelle, le moulin de mon enfance qui tombait en ruine est sauvé. Alors, là, je vois certains qui disent « Là, Arnaud, il est en train de nous raconter des histoires, ce moulin, il n'existe pas, c'est juste une image qu'il a prise pour ses prédications. » Alors, je vous ai amené une photo que j'ai prise il y a un mois. Et donc, ce moulin qui tombait en ruine est en cours de restauration. Un sauveur s'est révélé et il a décidé de restaurer ce moulin. Alors, il est évident que ce sauveur inespéré va payer un prix exorbitant pour restaurer ce moulin. Mais le constat est là, un certain nombre des travaux colossaux sont démarrés et bientôt ce moulin sera à nouveau habité. Alors, désolé, petite déformation professionnelle, le message aujourd'hui va être un peu BTP. C'est mon ADN qui s'exprime. Mais cette anecdote du moulin que j'ai pris en photo il y a un mois m'a fait songer à des versets que chacun d'entre vous connaît. Et je vous les livre maintenant pour ancrer ce message dans la parole. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ, c'est enraciner profondément les fondations de sa foi. Je répète, mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ, c'est enraciner profondément les fondations de sa foi. Alors, ça serait une gageure de passer en revue l'ensemble des paroles de Jésus-Christ, mais cette anecdote m'a rappelé un des tout premiers livres, peut-être même le premier livre chrétien que j'ai lu, qui m'avait été offert par mon pasteur à l'occasion de mon baptême. Et c'est un de mes livres préférés, qui s'appelle « La maison de la grâce ». Et le message que je vous apporte aujourd'hui s'en inspire très largement. Donc, aujourd'hui, je souhaiterais passer en revue les différents points des fondements de notre foi. Donc, pour la visite, c'est par ici. Suivez le guide. Ainsi donc, le moulin est sauvé. Il a fallu une décision et une simple signature de la part du sauveur pour que ce moulin passe de l'état de ruine à l'état de projet. Car en effet, un processus de restauration est quelque chose qui va prendre pas mal de temps. Et tout d'abord, la première étape, c'est l'étape des plans. On n'attaque jamais un projet aussi ambitieux sans avoir un plan, n'est-ce pas Étienne ? Jérémie 29, 11, en effet, Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre salut s'inscrit dans un plan dessiné par le Créateur. Par le péché originel, Adam a provoqué la ruine de l'homme. Pour sa faute, il fut banni du jardin d'Éden, perdit l'immortalité, mais perdit bien plus. Il perdit cette parfaite confiance en Dieu et sa capacité à se confier en lui sans aucune réserve. Dès cette faute commise, Dieu échafauda un plan pour tirer l'homme de sa condition. Un plan en plusieurs étapes, dont l'ultime se déroula sur le mont Golgotha, où Jésus-Christ perdit la vie pour absoudre tous les hommes de leurs péchés. Jésus paya un prix exorbitant, le prix de sa vie, pour nous offrir la possibilité de nous sortir de la ruine. Mais sa mort, elle n'a de sens qu'en considérant en même temps sa résurrection. Ainsi, le plan de Dieu étant accompli, nous n'avons désormais qu'une seule chose à faire pour être sauvés, accepter Jésus-Christ dans notre vie. C'est finalement assez simple. Mais je vous rappelle le verset 26. « Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Accepter la parole est une première étape. La mettre en pratique est la seconde. » Et force est d'avouer que ce n'est pas si simple. Mettre en pratique la parole, c'est chaque jour, tout au long de sa vie, dans toutes les étapes et dans tous les aspects de notre vie. Et c'est une vraie difficulté. Car entre notre nature charnelle qui nous pousse à la faute, le monde qui nous entoure et qui rejette Dieu, et enfin les attaques répétées du malin, c'est un véritable combat. Mais le plan de Dieu étant accompli, la balle est dans notre camp. Alors après avoir évoqué ce plan de Dieu, revenons à notre moulin, si vous permettez. Une fois les plans validés, il va falloir démarrer les travaux. Tout d'abord, pour accéder au chantier, d'une part, et à la bâtisse une fois terminée, ensuite, il va falloir créer une allée. Et cette allée, c'est celle qui mène à la maison du Père. Il nous faut la parcourir pour accéder à sa grâce. Le Père est prêt à nous accueillir, mais c'est bien à nous de franchir la distance qui nous sépare de lui. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui restent de longues années dans cette allée sans oser aller frapper à la porte. Ils restent aux abords de la maison, la regardent de loin, mais de nombreuses choses les empêchent de faire les pas qui leur manquent. Il en est ainsi, par exemple, de nombreux agnostiques qui admettent l'existence de Dieu, mais qui refusent de s'en approcher. Ces personnes ont eu parfois une éducation chrétienne, ont fréquenté l'Église dans leur jeunesse, mais troublés par des signaux contradictoires envoyés par notre société, ou freinés par leur peur, voire par leur orgueil, ils n'arrivent pas à atteindre la porte. Ils tournent autour de la bâtisse, pour voir s'il n'y aurait pas un autre moyen d'accéder, mais ils pourront faire autant de fois le tour qu'ils veulent de la maison, il n'y a qu'un seul chemin. Parcourir l'allée est un passage obligé, mais c'est un passage utile, car c'est à la fois un temps de découverte, et puis c'est le temps des interrogations. Dieu existe-t-il ? Est-il vraiment le créateur de toutes choses ? Est-il vraiment amour ou alors un juge impitoyable ? Peut-il vraiment accueillir un homme comme moi ? Christ a été très clair. Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc une fois encore, accepter Christ, c'est accepter de franchir la distance qui nous sépare de la maison de Dieu. Au bout de l'allée, une fois les murs restaurés, il va falloir installer une porte d'entrée. La porte d'entrée symbolise le point frontière entre l'espace extérieur et l'intérieur de la maison. Pour franchir cette porte, il y a une étape incontournable, sonner ou frapper. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis devant une maison dans laquelle je ne suis jamais allé, ou si je ne connais pas les habitants, j'ai toujours une petite appréhension, j'ai toujours une hésitation. Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Est-ce que je suis vraiment attendu? Est-ce que je ne vais pas déranger? Je me souviens d'une anecdote qu'on a vécue avec Ingrid il y a quelques années. On avait été invité par ma belle-sœur dans la maison de ses beaux-parents, la maison de vacances de ses beaux-parents au bord de la mer à La Rochelle. À l'heure dite, on arrive avec Ingrid, les enfants, et puis on sonne. Et là, la porte s'ouvre, c'est mon beau-frère, pendu au téléphone, en grande conversation téléphonique, il est en train de dépanner quelqu'un en informatique. Il nous ouvre la porte, et sans lâcher son téléphone, sans même couper sa conversation, nous ouvre la porte et s'éclipse. Quelque part dans la maison, on l'entendait encore parler, en train de dépanner quelqu'un sur son ordinateur. Et on s'est retrouvés plantés au milieu du couloir avec nos valises, nos enfants, pardon, c'est mieux dans l'autre sens, plantés au milieu du couloir, dans une maison qu'on ne connaissait pas, et plus personne pour nous indiquer la marche à suivre. Ça a duré de longues minutes. On se regardait avec Ingrid, on avait fait 2h30 de route, on se demandait si on n'allait pas repartir. Puis finalement, ma belle-sœur est arrivée des courses, complètement surprise de nous voir au milieu de ce couloir et sans savoir quoi faire. Alors, elle nous a libérés de ce calvaire, mais cette anecdote nous a quand même laissé un arrière-goût amer. D'ailleurs, c'est la seule anecdote que j'ai retenue de ce séjour. Alors, la porte d'entrée, ça symbolise l'accueil. Lorsque nous accueillons des visiteurs dans nos églises, sommes-nous attentifs aux craintes et aux peurs des personnes qui franchissent le seuil de notre porte pour la première fois? Je profite pour rendre grâce pour les frères et les sœurs qui assurent ce service de l'accueil. C'est un ministère qui est absolument primordial et qui nécessite certains dons. Personnellement, n'étant ni physionomiste et n'ayant aucune mémoire des prénoms, c'est un mystère que je dois fuir. Je serai capable d'accueillir un visiteur qui vient depuis plusieurs mois à l'église comme un tout nouveau. Je laisserai une image quand même assez désastreuse. Heureusement, le propriétaire de la maison veille. C'est lui qui assure finalement l'accueil. Jean 10, verset 9. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » La présence de Jésus transforme la maison en une habitation vivante. C'est Jésus qui nous accueille en personne. Éphésiens chapitre 2, 19. Jésus ne nous accueille pas comme des visiteurs. Il nous accueille comme des membres à part entière de sa famille. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. La porte d'entrée est le premier élément que les nouveaux arrivants voient de la maison. Ça nécessite du courage de frapper à cette porte. Mais soyez assurés que l'hôte qui se tient derrière vous attend, nous attend avec impatience. Dans le verset d'introduction, on a vu que les fondations d'une maison sont un élément primordial pour garantir sa stabilité. Mais on voit sur la photo du moulin qu'un soin tout particulier a été apporté à la partie opposée de ces fondations. Une bâtisse, quelle qu'elle soit, n'a aucune chance de résister aux affres du temps sans une toiture bien conçue et parfaitement étanche. La première fonction attendue d'une maison, c'est d'abriter ses occupants. Et la toiture joue un rôle primordial. La grâce de Dieu nous protège des aléas de la vie aussi sûrement que le toit protège des aléas climatiques. Le fait de doter une maison d'un toit ne va en aucun cas mettre fin aux tempêtes, aux intempéries. Mais ce toit va nous protéger de leurs conséquences. Mettre sa vie dans l'amour du Christ ne va en aucun cas mettre fin aux tempêtes de la vie. Mais son amour va nous permettre de mieux résister aux conséquences de ces épreuves. En revanche, se mettre sous la protection d'un toit implique impérativement de se mettre également sous l'autorité du propriétaire. Nous voulons naturellement être protégés, nous recherchons une forme de sécurité. En revanche, accepter une autorité et être soumis à des règles, aux règles que cette autorité a fixées sous son toit, n'est pas toujours si simple. Les enfants disposent d'un grand espace de liberté. Moi, je respecte leur autonomie dans la maison. Mais en même temps, ils savent qu'un certain nombre de choses ne sont pas tolérées sous mon toit. Et je dois, très rarement, je dois le dire, rappeler ces règles de temps en temps. Accepter l'hospitalité de Dieu, entrer dans sa maison de grâce, pénétrer sous son toit, nous offre une merveilleuse protection et un cadre de vie d'une richesse insoupçonnée. Mais en même temps, entrer dans sa maison, c'est accepter de jouer ses règles à lui. C'est pas si simple pour nous qui sommes attachés à notre indépendance. Mais comme les deux faces d'une même pièce, accepter le salut en Jésus-Christ, c'est aussi obéir à sa parole, car dans le cas contraire, c'est construire une maison sur le sable. Pour pouvoir accueillir des nouveaux habitants, le moulin va devoir également être équipé d'une pièce indispensable, la cuisine. S'il y a une chose sur laquelle les Français se retrouvent, c'est bien la bouffe. La région favorite de Tristan, c'est le Périgord. Et je vous garantis que ce n'est pas pour les châteaux forts. C'est pour le parmentier de canard et les pommes de terre sarladaise. Gras, c'est la vie. Dans la maison du Seigneur, il y a aussi un temps pour le repas. Matthieu 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés ». Nous sommes invités au repas du Seigneur. Nous avons besoin de cette nourriture céleste qu'il nous offre à manger et à boire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, répond Christ au diable. Mais il y a plusieurs manières de participer au repas. Lorsqu'on invite quelqu'un chez soi pour manger, il arrive souvent que notre invité se propose pour nous aider dans la cuisine, pour préparer le repas. Alors il y a deux manières de réagir face à cette proposition. Soit vous voulez d'une part, rester dans votre coin, et puis vous voulez que cette personne se sente vraiment invitée et attende confortablement installée dans le canapé pendant que vous finissiez de préparer le repas, ou alors vous acceptez. Et en faisant cela, eh bien, vous allez pouvoir avoir un moment de partage et d'intimité duquel vous seriez privé si vous le laissez seul dans le salon. Et c'est plutôt comme ça que fonctionne la cuisine de la maison du Seigneur. N'oublions pas que nous y sommes non pas en tant qu'invités, mais en tant que membres de la famille. Lorsqu'on est seul, il est rare qu'on se prépare un festin. Ça se finit généralement par une boîte de conserve réchauffée au micro-ondes. Je remercie l'Asie de m'avoir fait connaître les ramen, des espèces de nouilles en sachet prêtes en 2 minutes. Quand je suis tout seul, c'est pratique. Mais lorsqu'on est une famille, il y a plus de richesse à partager et à préparer et à consommer le repas ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui dans ce culte pour célébrer le Seigneur. Nous œuvrons ensemble par nos louanges, par nos prières, par les différents services que nous apportons pour faire de ce repas un véritable festin digne du nom de celui qui nous accueille. poursuivons la visite de notre moulin. La pièce qui s'ouvre maintenant à nous, c'est la salle de bain. Impossible d'imaginer une maison aujourd'hui sans salle de bain. Il nous faut une pièce pour nous laver. Sans salle de bain, les conséquences ne tardent pas à se faire sentir, si vous m'autorisez ce vilain jeu de mots. Sans action délibérée de notre part pour le rendre propre, le corps humain se salit progressivement et de manière croissante, avec deux conséquences. D'abord, cette dégénérescence du corps va avoir des effets néfastes sur la santé, mais également va aussi avoir des implications sur dans le domaine des relations sociales et amicales. Il en est exactement de même sur le plan spirituel. Il est très difficile d'admettre au sein d'une société qui prône l'absolue tolérance, une société qui ne tolère même plus l'intolérance, que nous avons besoin d'être purifiés. Cette notion de pur et impur, pour le monde qui nous entoure, ce sont des notions du passé, ce sont des notions moyenâgeuses, et pourtant, elles sont centrales dans notre foi. Le péché nous rend impurs devant Dieu. Et nous devons être purifiés pour bénéficier de cette relation profonde avec notre Créateur. De quoi devons-nous être lavés ? Du péché, certes, mais de quoi précisément ? Nous devons être lavés de notre culpabilité. Alors, il y a une particularité dans la salle de bain du Seigneur, et je fais un clin d'œil à Nathalie. L'eau est un peu particulière dans la salle de bain du Seigneur, des discussions qu'on a eues la dernière fois qu'on s'est vues. L'eau, elle est rouge. Elle est rouge vif. Elle est rouge du sang versé de Christ sur la croix. C'est ce sang versé qui nous libère de notre culpabilité, car en mourant sur la croix, Christ s'est chargé de tous nos péchés et a payé le prix. De la même manière que prendre un bain nous libère de la crasse, la grâce de Dieu met en œuvre un processus qui va nous mener du péché au pardon. Effectivement, l'étape ultime de la grâce de Dieu, ce n'est pas la perfection de nos vies. Nous ne pourrons jamais atteindre cet état. La grâce nous permet d'être pardonnés et débarrassés de notre culpabilité. Mais Jésus nous rappelle un point. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Le pardon accordé par Jésus a une valeur constante, mais le voyage de la vie peut nous salir. Nous avons donc besoin de revenir constamment à Dieu pour être purifiés des péchés de la vie quotidienne. La dernière pièce que je voudrais visiter avec vous, c'est la chambre. Aucune maison ne dispose pas au moins d'une chambre, d'un endroit où se reposer. D'ailleurs, ce n'est pas toujours un endroit qu'on fait visiter, parce que c'est quand même un lieu très intime. Le repos est absolument primordial pour le corps et pour l'esprit. Les personnes qui souffrent de troubles du sommeil voient leur santé se dégrader très rapidement. Les sectes et les polices politiques des régimes dictatoriaux savent d'ailleurs très bien que la privation de sommeil est une technique imparable pour briser l'esprit des récalcitrants et pour démarrer un processus de lavage de cerveau. Nous avons absolument besoin de repos. Et d'ailleurs, Dieu en a fait une règle. Il a instauré le sabbat car il sait que le sabbat est nécessaire. Le sabbat a été fait pour l'homme d'ailleurs, mais pas l'homme pour le sabbat. Un homme qui ne se repose pas, il sait parfaitement qu'il peut s'affaiblir, qu'il peut tomber malade, mais surtout qu'il devient une proie très facile pour le malin. Dans la maison du Seigneur, entrer dans la chambre et y trouver le repos de l'âme tient pour nous à deux actions majeures. La première, c'est celle que nous trouvons exprimée par Jésus lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ainsi, trouver le repos de l'âme, c'est venir en Christ, se mettre sous son autorité. La seconde action majeure, c'est celle que nous retrouvons dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Trouver du repos, c'est donc aussi rester sous la houlette du berger, se laisser conduire par lui tout au long de sa vie. Ainsi, venir à Christ et rester auprès de lui sont les deux actions que nous devons entreprendre afin de trouver un repos spirituel réparateur. Venir et rester. Trouver les repos de l'âme, ce n'est pas rester sans rien faire à attendre que ça vienne. Ça nécessite une action volontaire de notre part. Un effort pour venir à Christ, pour accepter le salut qu'il nous offre. Puis, c'est un choix délibéré de rester auprès de lui, de se plier à ses commandements, entendre et obéir à sa parole, la mettre en pratique. Et ainsi, nous bouclons et nous revenons à notre verset de départ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors c'est ainsi que se termine notre visite de la maison de notre Seigneur. Alors il y aurait encore d'autres pièces à visiter. Je vous renvoie tout simplement à l'ouvrage que je vous ai cité. Jésus nous appelle à rejoindre son foyer. Il nous invite non pas comme un invité, il nous invite non pas comme des visiteurs anonymes, trouvés par hasard, qui auraient cherché sur Internet, sur Airbnb, un gîte temporaire, qui viennent pour un temps très court et que Jésus ne reverra jamais. Il nous invite comme des membres à part entière de sa famille. Je viens juste de racheter la maison de ma grand-mère en vue de m'y installer d'ici quelques mois. Alors, lorsque ma maman était petite, dans cette maison vivaient mon arrière-arrière-grand-mère, mes arrière-arrière-grands-parents, mes grands-parents, mon arrière-grand-oncle et ma mère. Il était même prévu que mes parents, après leur mariage, s'y installent. Ils ont préféré prendre un peu d'indépendance. C'est ce projet de famille nombreuse et unie que Christ nourrit pour nous. Nous sommes appelés à vivre sous la protection, sous l'autorité et sous l'amour de notre Dieu. Nous avons seulement à en franchir le seuil, à poser nos valises et à prendre part activement à la vie familiale au sein de notre nouveau foyer. Je vous remercie. Je vais prier. Oui Seigneur, merci pour ton accueil au sein de ton foyer, au sein de ton amour. Merci pour la libération que tu nous offres. Merci pour la protection. Tu nous offres un foyer, tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous donnes du repos et tu nous pardonnes. Seigneur, tu nous offres la perspective d'une vie éternelle à tes côtés. Seigneur, je rends grâce pour cet amour que tu nous manifestes tous les jours. Nous avons besoin de revenir à toi tout au long du voyage dans cette vie. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton sacrifice pour être pardonnés et pour être débarrassés de notre culpabilité. Merci Seigneur pour ce sacrifice dans ton sein. Amen.